D'accord, déballons tout ça. On a souvent cette image des grandes figures bibliques, tu sais, comme des espèces de statues de marbre immaculées.
Ouais, des profils parfaits.
Exactement, des gens complètement lissés par l'histoire. Mais en fait, quand on se plonge dans la source du jour, donc les notes de la session 16 du docteur Kenneth Matthews sur le livre de la Genèse, chapitres 25 à 27, eh ben, on découvre tout autre chose.
Ah, ça oui, c'est plutôt de la boue que du marbre.
Carrément, de la boue, hein. On parle de luttes familiales super toxiques, de tromperies hyper calculées, de rivalités qui finissent même par redessiner toute la géopolitique du Proche-Orient antique.
C'est fascinant, parce que ça touche à la nature humaine brute.
C'est ça. Et pour un esprit curieux, cherchant à comprendre les fondations des dynamiques familiales et du pouvoir, bah, ces textes sont une vraie mine d'or. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette dynamique autour d'Isaac, de son épouse Rebecca et de leurs fameux jumeaux, Jacob et Ésaü.
Et pour bien comprendre cette mécanique, il faut d'abord regarder comment le texte ancien se structure en fait. La section commence par un terme hébreu fondamental, le mot toledot.
Qu'on traduit généralement par génération, c'est ça, hein?
Ouais, les générations de ou l'histoire de. Mais ce qui est paradoxal ici, c'est que bien que le texte annonce l'histoire d'Isaac, ben ce dernier sert presque exclusivement de figure de transition. L'histoire, la vraie, concerne véritablement la rivalité de ses fils. Et on ne parle pas seulement de ce qui se passe, mais de pourquoi cela compte dans le grand tableau de l'histoire humaine et divine.
Et justement, avant d'en arriver au fils, il y a ce parallèle troublant avec le père. En lisant ses notes, j'ai eu l'impression d'assister, tu vois, au reboot d'une série télévisée classique.
Ah oui, c'est une super analogie.
Ben oui, le nouveau protagoniste, Isaac, fait très exactement les mêmes erreurs que l'original, son père Abraham en dit. Les parallèles sont d'une évidence frappante pour montrer l'unité des promesses divines et la solidarité familiale.
Tout à fait. Et on le voit d'abord avec la fertilité. Les deux hommes ont dû attendre un temps incroyablement long avant que leur femme ne tombe enceinte.
25 ans pour Sarah et 20 ans pour Rebecca, c'est immense.
C'est un délai qui teste forcément la résilience mentale du couple, ouais. Et puis, les deux ont eu des fils rivaux. Ismaël et Isaac, d'abord, puis Ésaü et Jacob, ensuite.
Des fils qui, d'ailleurs, finissent par vivre dans des environnements très différents, genre les hommes de plein air opposés aux hommes des tentes.
Exactement. Mais le parallèle le plus frappant et franchement le plus embarrassant, c'est l'épisode de Guérar avec le roi Abimélec.
Oh là là, oui.
L'excuse de la femme sœur.
Il utilise littéralement le même excuse bidon que son père.
Ouais, pendant une famine, Isaac reste à Guérar. Et là, il prospère de manière surnaturelle. Le texte dit qu'il récolte le centuple de ses cultures.
Ce qui forcément attire l'attention et la jalousie.
C'est clair. Et là, par pure paranoïa, par peur d'être tué par des hommes qui voudraient lui prendre sa femme, il ment. Il dit que Rebecca est sa sœur.
Mais c'est absurde.
Et le pire, c'est comment il se fait attraper. Le roi Abimélec, d'ailleurs, le docteur Matthew précise bien que c'est un titre royal, un peu comme Pharaon. C'est pas le même gag du temps d'Abraham, mais le roi regarde par la fenêtre.
Et il les voit interagir d'une manière qui n'est pas du tout fraternelle.
Il voit Isaac caresser Rebecca. La supercherie s'effondre lamentablement.
C'est pitoyable. Et pourtant, ça se termine par un traité de paix au même endroit qu'Abraham, à Beersheba.
Beersheba, qui signifie d'ailleurs le puits des sept ou le puits du serment.
Mais ça me pose une vraie question éditoriale. Pourquoi préserver ces détails si peu flatteurs? Je veux dire, n'aurait-il pas dû éditer ces erreurs pour faire paraître leur fondateur plus héroïque?
Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ça démontre justement l'intégrité totale du texte.
C'est-à-dire?
La réussite de cette famille, elle ne repose pas du tout sur une droiture morale irréprochable. Ils sont profondément imparfaits, parfois même lâches.
Ouais, c'est pas des modèles de vertu.
Non, pas du tout. Mais ça met en lumière la souveraineté divine qui est en jeu. Le plan souverain s'accomplit malgré eux, malgré leurs mensonges.
C'est fou. Et cette répétition des schémas, cette idée que la morale ne dicte pas l'élection, ça nous amène directement à la naissance de la génération suivante. Et là, le conflit ne commence pas à l'âge adulte. Il commence littéralement dans le ventre de la mère.
Ouais, c'est une scène incroyable.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Rebecca souffre d'une grossesse tellement tumultueuse, il y a une telle bagarre à l'intérieur qu'elle craint une fausse couche et elle va interroger le divan.
Et la prophétie tombe implacable. Deux nations sont dans son ventre, elles seront séparées. Et c'est le fait crucial ici, l'aîné servira le plus jeune.
ce qui va à l'encontre de absolument toutes les règles de l'époque.
Totalement. C'est un bouleversement complet. Et la naissance elle-même est hyper symbolique. Le premier sort, il est roux, évelu, on l'appelle Ésaü, ce qui est un jeu de mots avec Édom qui signifie roux.
Et le second ?
Le second sort carrément en agrippant le talon de son frère.
L'image est dingue.
Ouais. Et il est nommé Jacob. En hébreu, la sonorité de Jacob ressemble beaucoup au verbe agripper, supplanter. C'est déjà une métaphore de la tromperie.
D'ailleurs, les notes mentionnent l'apôtre Paul dans Romains 9 par rapport à ça, non ?
Exact. Paul utilise cet événement précis pour illustrer que les plans divins ne suivent jamais les coutumes humaines, ni les compétences, ni même le caractère éthique des individus.
Mais du coup, ça soulève un énorme paradoxe. Si la prophétie annonçait déjà de manière certaine que le plus jeune dominerait l'aîné, est-ce que Jacob et Rebecca avaient vraiment besoin de recourir à la ruse plus tard ?
C'est la grande question.
Bah ouais. Ont-ils simplement forcé le destin par manque de confiance ? C'est irrationnel de paniquer quand on a déjà la garantie du résultat.
Si nous relions cela à une vision plus globale de ces textes, on remarque une inversion constante des normes. Seth élu au lieu de Caïn, Isaac au lieu d'Ismaël.
Ouais.
Le paradoxe, il est là. Le destin était fixé.
Mais l'impatience humaine, cette volonté angoissée d'orchestrer soi-même ce destin pour s'en assurer le contrôle, ben c'est ça qui crée tout le drame. Et ce trait de caractère de Jacob, le fait d'être un agrippeur opportuniste, quelqu'un qui veut tout contrôler, ça trouve son illustration parfaite des années plus tard, autour d'un simple feu de camp.
Le fameux épisode de la soupe.
Ouais. Ésaü, le chasseur habile, qui est le préféré d'Isaac parce qu'il ramène du gibier, il rentre d'une chasse. Et il est affamé au point de frôler la mort.
Et de l'autre côté, on a Jacob, l'homme domestique qui vit sous les tentes, le préféré de Rebecca, et il est en train de préparer un ragoût roux.
Et là, l'échange est dramatique. Jacob voit son frère mourant de faim, et il exige rien de moins que son droit d'aînesse contre ce bol de soupe. C'est l'équivalent antique de vendre la totalité de ses parts dans une grande entreprise technologique contre un menu fast-food, juste parce qu'on a sauté le petit déjeuner.
C'est exactement ça. Et ce droit d'aînesse, c'était pas rien. Ça garantissait une double portion de l'héritage, comme c'est mentionné plus tard dans Deutéronome 21, verset 17.
C'était la sécurité financière totale.
Absolument. Mais Ésaü accepte. Il dit un truc du genre « Bon, je vais mourir de toute façon, à quoi ça me sert ?»
Et le texte précise, je crois, qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Mais ça me fait me demander, est-ce qu'on doit voir Jacob comme un fin stratège commercial hyper malin ou plutôt comme un frère cruel qui exploite une vulnérabilité mortelle ?
Ben, les notes sont claires, les deux sont coupables en fait.
Ouais.
Jacob est clairement ambitieux et trompeur. Il capitalise avec une froideur terrifiante sur la détresse physique de son frère. Mais de l'autre côté, le texte tient vraiment Ésaü pour responsable.
Parce qu'il a cédé ?
Parce qu'il a dévalué une responsabilité sacrée et générationnelle. Il a tout jeté par la fenêtre pour une satisfaction immédiate, juste pour remplir son estomac.
C'est le biais du présent poussé à son paroxysme.
Exactement. Sauf que vendre le droit d'aînesse, l'aspect purement matériel, ça ne suffisait pas à Jacob et Rebecca. Il restait un dernier obstacle.
La validation ultime du patriarche. La bénédiction.
Et c'est là qu'on arrive à la scène qui fracture définitivement la famille.
Ouais, la tension monte d'un cran. Isaac est devenu très vieux, ses jeux sont faibles, il est pratiquement aveugle.
Et il demande un dernier repas de gibier à Ésaü pour pouvoir le bénir avant de mourir.
Sauf que Rebecca écoute aux portes.
Elle entend tout. Et elle passe immédiatement à l'action. Elle prépare un repas avec le troupeau domestique et surtout elle élabore ce plan complètement fou.
Le déguisement.
Voilà, elle déguise Jacob avec de la peau de chèvre sur les mains et le cou pour simuler la pilosité d'Ésaü. Elle va jusqu'à dire qu'elle assume la malédiction si le plan échoue.
C'est presque du théâtre de boulevard, mais avec des enjeux mortels. Et Jacob, qui prétendait être un homme tranquille, il y va à fond. Il enchaîne trois mensonges flagrants face à son père aveugle.
C'est une vraie descente aux enfers éthiques. D'abord, il dit frontalement « Je suis Ésaü ».
Déjà, l'usurpation d'identité.
Ensuite, quand Isaac s'étonne qu'il soit revenu si vite de la chasse, Jacob implique Dieu lui-même. Il ose dire « Le Seigneur, ton Dieu, m'a donné du succès ».
C'est glaçant. Il utilise la providence divine comme alibi pour une escroquerie.
C'est le sommet du cynisme. Et finalement, quand Isaac doute encore et lui demande de s'approcher, Jacob maintient « Je le suis ».
Et le pire, c'est que ça marche.
Ouais. Et c'est là qu'on voit l'importance des mots dans cette culture. Le mot « bénédiction » apparaît 15 fois dans ce seul passage, contre seulement 2 fois pour la malédiction.
15 fois, waouh !
Et la bénédiction donnée à Jacob est totale. La rosée du ciel, la richesse de la terre et la domination absolue sur ses frères.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand le vrai Ésaü revient ? Le choc doit être brutal.
C'est une scène déchéante. Ésaü revient, le mensonge éclate, et Isaac est pris de tremblements violents. Mais la bénédiction est irrévocable.
C'est fou ça. Il ne peut pas juste dire « Oups, je me suis trompé ».
Non. La parole prononcée avait une force presque matérielle. Et du coup, Isaac lui donne ce qu'on pourrait appeler une anti-bénédiction ou une non-bénédiction.
Genre les restes ?
Pire. Il lui annonce qu'il vivra loin de la richesse de la terre végétale et qu'il vivra par l'épée, en servant son frère.
Mais pourquoi Rebecca détestait-elle tellement Ésaü au point d'orchestrer tout ça ?
Le docteur Matthews souligne un détail clé. À 40 ans, Ésaü s'était marié à des femmes hittites.
Ah, des femmes locales.
Ouais, et ces mariages ont profondément dégoûté Rebecca, au point où elle disait que sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. C'est très probablement ça qui a alimenté sa justification intérieure pour trahir son fils aîné.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Parce que je regarde cette famille et il n'y a littéralement aucun héros dans cette scène. Comment on est censé trouver une quelconque inspiration ici ?
Cela soulève une question importante sur la manière dont on lit ces textes. Il ne faut pas y chercher des modèles de perfection.
C'est clair, ils sont tous coupables.
Exactement. Isaac est coupable pour son favoritisme aveugle, littéralement motivé par son estomac. Rebecca pour sa manipulation active et calculée. Jacob pour ses mensonges répétés et blasphématoires. Et Ésaü pour ses choix de vie désinvoltes et sa négligence.
C'est un désastre total.
Mais ça nous montre comment la grâce opère dans cette vision théologique. Elle ne sélectionne pas des individus parfaits. Elle transforme des individus profondément fracturés et le plan divin avance à travers, et parfois malgré, cette boue humaine.
C'est une sacrée leçon d'humilité. En résumé, pour quiconque étudie ces sources, il faut accepter que les fondations de cette histoire ne sont pas faites de marbre. C'est de la boue très ordinaire. La rivalité, le favoritisme parental, la tromperie, c'est ça qui a redessiné la carte politique et spirituelle opposant plus tard les Israélites aux Édomites.
Et bien ça rappelle que les familles dysfonctionnelles ne datent pas d'hier. Même les histoires les plus sacrées refusent de censurer la laideur des erreurs humaines.
Absolument. Et pour terminer, ça m'amène à une pensée provocatrice qui m'a frappée dans les notes. Bien que ce ne soit pas le cœur de l'analyse, le texte fait référence au prophète Osée, au chapitre 12.
Ah oui, le passage sur la lutte.
Ouais. Osée décrit comment Jacob a passé sa vie entière à lutter. Et ça donne vraiment à réfléchir. Et si, en volant cette bénédiction par la tromperie, Jacob s'était en fait condamné lui-même à une vie de lutte incessante ?
C'est une perspective vertigineuse.
N'est-ce pas ? En agrippant le talon de son frère dans le ventre de sa mère, ne s'est-il pas enfermé dans un cycle infernal ? Un cycle où il devra, plus tard, se battre corps à corps avec sa propre famille, avec son beau-père Laban, puis littéralement avec le divin dans la poussière à Bethel ou au torrent de Jabbok.
Comme si ses actions initiales avaient tracé la forme de ses propres épreuves.
Exactement. Le trompeur ne finit-il pas toujours d'une manière ou d'une autre, par devoir affronter le reflet déformé de ses propres mensonges. Une vraie méditation sur les conséquences de nos raccourcis moraux,